une campagne. L'autre façon de vivre est d'entendre la campagne.
Après la campagne se poursuit. Résumé des épisodes précédents.
C'est un livre dont tout le monde parle, mais que personne n'a lu.
C'est un livre, c'est une histoire. Une histoire de campagne, comme on dit campagne marseillaise ou provençale. Cette campagne se situe à Martigues, boulevard Hélène Fournier, assassiné par les Allemands. À moins que ce ne soit à Martigues, chemin de paradis, tant prisé par les nazis qui y trouvèrent une justification du mot « race ». L'une donne sur l'étang et la berge opposée des communes de Marignane et Vitrolles, l'autre sur Stade, quartier de l'Hôtel de Ville, et Chenal de Caronte. Cette histoire est donc une géographie.
Pourquoi pas une géographie politique tant que tu y es ? Non, cette histoire est celle des fruits. Des fruits tels qu'on les trouve dans nos campagnes, pourrissant sur pied et sur place, puisque jamais plus on ne les ramasse. Préférant les acheter fort, cher et plus loin au supermarché du coin. Des fruits dont on perd la notion, l'usage, le mode d'emploi, notamment des fruits méditerranéens, nèfles, kaki et coings. Non, il s'agit d'une ode au mûrissement, au goût et à la forme du fruit. Sans se payer la nôtre, l'auteur y parle de poire et d'amande comme de boire et de manger. On goûte le mot et la chose. On essaie de s'en approcher au maximum, on va à l'essentiel, le fruit, et savoir si la langue peut le dire.
Moi, je dis que ce n'est pas une histoire, mais un poème. J'en veux pour preuve que l'auteur ne cesse de répéter que le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit.
Comme dirait Will, attendez, j'expire, Liam, beaucoup de fruits pour rien. Cessons de tourner autour du noyau ou du trognon. Disons les choses carrément. Il s'agit d'une charge contre le consumérisme, l'hébétude télévisuelle et le conditionnement ambiant. Bref, la consommation comme seul horizon. Doublé d'une charge contre le travail, le trait 68-art est toujours d'actualité, perdre sa vie à la gagner. L'aliénation salariée empêchant le poète, l'artiste, mais pas seulement, chacun d'entre nous, soit dit en passant, de vivre comme il l'entend, de vivre tout simplement.
Mais vous êtes fou de parler ainsi, si Monsieur Tarkovski vous entend.
Je vois que vous avez pris vos sarcoleptiques, mais ne vous laissez pas endormir par l'image d'un homme qui court, court encore, court toujours, hélas, et qui commence à nous courir sur...
Le haricot ?
Non, le système.
Prenez garde, les chiffres sont là, la majorité a voté.
Je sais, travail, famille, conneries.
Chut ! Surtout pas un mot de plus, si Monsieur Tarkovski vous entend.
Si Monsieur Tarkovski, c'est Monsieur Tarkovski, si Monsieur Tarkovski vous entend.
Chut !
À mon avis, vous n'y êtes pas du tout. Et Tarkovski n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, j'aimerais autant qu'on ne mêle pas le nom d'un grand cinéaste russe à tout ça. En résumé, il s'agit de l'histoire de Martigues, de son territoire et de son devenir urbain, à travers celle de deux bastides, le prieuré et celle de Maurras à laquelle l'auteur la compare. Vous voyez, rien de plus simple. Deux bastides, deux campagnes provençales et, au bout du compte, en tirant bien sur ses fils, un portrait de la ville.
Vous filez la métaphore ou quoi ? Avec vos fils et vos films. En résumé, il s'agit surtout d'une histoire de fleurs sauvages. Vous savez ? Celles dont on ne parle pas, qu'on ignore prétentieusement, qu'on va même jusqu'à écraser du pied. Et parmi elles, le coquelicot.
Ah, le coquelicot !
Oui, le coquelicot, hymne à la sensualité, hymne aux pavoisants pavots, aux rouges cramoisis des idéaux jadis dans le vent, hymne au renouveau du printemps.
Ah, le coquelicot !
Décidément, vous n'avez rien compris. C'est un livre, poétique et politique à la fois. Un point, c'est tout. D'ailleurs, l'auteur citant Quignard ne cesse de nous le répéter. Écrire est entièrement politique. Un point, c'est marre. Ce n'est pas le livre dont tout le monde parle, mais le monde dont tout livre parle. Quelqu'un l'a lu ?
Écoutez, mettons-nous d'accord. Il n'y a visiblement pas de résumé qui tienne. Et si nous continuons, le résumé risque d'être plus long que l'épisode lui-même. J'en appelle à votre sérieux, à votre professionnalisme. Résumons moins pour gagner plus. Convenons ensemble qu'il n'y a pas une histoire, mais plusieurs, et que toutes se valent. Il y a plusieurs histoires comme il y a plusieurs angles. Tout devient alors une question de point de vue. Convenons également que toutes ces histoires se mélangent, s'entrecroisent et s'entremêlent, si bien que même l'auteur s'y perd. D'où qu'à la fin de son livre, un rien perplexe, il se demande
« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»
Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Une histoire de Bastide.
D'amande, à lire dans le texte.
De campagne provençale.
De bonne et de mauvaise poire.
De Martigues et de sa martingale.
De crispation politique locale.
De sainte victoire vue de trois quarts.
De charlot et du mot race.
De fachos qui commencent à nous chauffer.
De coquelicots et de fleurs sauvages.
Tout ça à la fois.
Et tous à la fois.
Après la campagne se poursuit.
Désir du verre.
Les peintres paysagistes, quand j'en rencontre un dans la campagne, j'ai toujours envie de le canarder.
Pam pam !
Il lève sa canne, cligne un œil et vise les meubles du salon.
Pam !
André Gide. En y réfléchissant, l'enceinte du jardin, cette séparation formelle qui se traduit aujourd'hui par un mur monté sur trois côtés, n'est pas d'origine. Construite récemment, avant l'ouverture du jardin au public, afin d'en démarquer le domaine privé du reste, livré au tout venant, au peuple souverain, essaie-t-on de nous faire croire. Protégeant l'intimité de ses habitants, somme toute privilégiés, mais moins qu'avant, locataires ou propriétaires, de la fréquentation populaire encore timide. Quelques habitués, mères de famille, prenant l'air ou le verre avec leurs rejetons. Personnes âgées, promenant leurs caniches ou traînant là leur déjà vieille solitude. Point de facteurs, de travailleurs, peu d'amoureux. Ces gens-là n'ont pas le temps, trop occupés ailleurs, à remplir leur journée, parents au plus pressé.
Plus j'y réfléchis, plus je me dis que l'enceinte n'existait pas avant, du temps de sa splendeur, quand la campagne était entière, d'un seul pan ou d'un seul tenant, plongeant droit sur l'étang. Hier, quand le champ touchait aux pelouses du jardin et que, seul, sur le côté, une haie végétale alors décorative partageait cet espace, formalisant le jardin, ses arbres plus hauts et plus nombreux pour l'ombre nécessaire vis-à-vis de l'ordinaire campagne clairsemée d'amandiers ou de figuiers dans quelques coins plus propices, à l'époque uniquement délimitée par d'autres parcelles et chemins, de haut en bas jusqu'à la berge, extrémité légitime ou naturelle que sont ces vraies frontières.
On avait alors un rectangle pentu, orienté d'est en ouest face au lever.
La tête à l'ouest, bastide dormante, dos au couchant.
Les pieds dans la petite mer, campagne plongeante, sur l'étang rebaptisé depuis du nom de Berre.
Hier encore, vivante élégie d'eau claire, bien que mêlée de terres basses, marécageuses, paysage qui fut avant toute chose ce mélange et cet équilibre, un paradoxe paradisiaque que d'aucuns nous décrivirent, tout à la fois lacustre, palustre, marin et très primordial, fichtrement méditerranéen.
Flaque jadis bleu glacé, aujourd'hui marron azur.
Pastiche, servi aussi sec, sans os et sans flagornerie, par un observateur du Marais Poitevin.
Sers-moi un pastiche. Plus avant encore, au début et au milieu du 19e, on peut penser que le domaine plus large et plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui, donnait sur l'étang, faisait corps avec lui.
Qu'il n'y avait là ni route, ni villa, ni berges aménagées, ni rangées de platanes.
Qu'aux champs succédait un sentier côtier longeant une plage étroite.
Ou bien des zones incertaines de lagunes et de marécages, aux lignes de partage plus indistinctes et plus douces.
Que la campagne était aussi nécessairement marine ou saline, qu'elle était paysanne ou pastorale, tournée vers cet horizon patent qui la prolonge et la borne.
Prodigue beauté des eaux, corne d'abondance.
Et source inépuisée de plaisir.
Pêche, baignade, etc.
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 En somme, l'âge d'or de cette campagne bourgeoise, peut-être, et après tout, d'origine religieuse.
Si l'on s'en tient au nom de la Bastide.
Comme tout ce qui était sous la domination d'un ministère.
Prieuré, lieu de méditation et recueil, d'isolement et prière.
L'ecclésiastique s'entoure de terres, de jardins et de pierres.
Beauté païenne.
Réconfortante.
Auquel il confère quiétude et sens noble.
Divin.
Rassurant.
Cultivant et habitant son jardin, tant pour se sustenter que pour l'agrément.
L'ornement.
L'éphémère parure des fleurs et des arbustes.
Le plaisir des saisons et ceux de sa table.
Car le mystique sait vivre et vit bien.
Car le mystique sait que vivre se vit bien.
Insistons.
Il se souvient du vertige qu'il éprouvait en réalisant ce que l'œil peut compter de couleurs dans le moindre brin d'herbe.
Insistons.
Insistons.
Insistons. L'herbe restante est d'un blond filasse et dresse encore ses touffes rases, exsangues.
Insistons.
Insistons.
Elle s'espace néanmoins, cède partout du terrain.
C'est comme si, amorçant sa décrue, elle reperdait le terrain précédemment gagné.
Insistons.
Et laisse voir la terre dans ses lapses, des plaques ou flaques de terre nue qui croissent comme lèpre, calvitie. Retour à la nudité du sol, à la poussière terreuse et gravillonneuse du champ, aux abords de l'automne.
Insistons.
Insistons.
Un tapis de débris.
Brins d'herbe, brindilles et bouts de bois.
Coques d'amandes résiliées.
Fruits secs ou blettes.
Gravier, mortes feuilles.
Minuscules gravats.
Le tout filasse donc.
Oui, et, filasse donc.
Et filandreux, marron et chaume, tissant sur la terre une fine pellicule grenue. Un dépôt qui se réduit, se détériore encore, pulvérulent, craque et se brise sous la chaussure lorsqu'on marche
craque
dessus.
Craque et se brise sous la chaussure lorsqu'on marche dessus.
Ainsi, l'été est ce qui a été.
Ce qui fut ou s'enfuit.
La fin du verre. Des haricots.
Insistons.
Dessèchement du pré, de la terre et des arbres qui souffrent, perdent déjà leurs feuilles, exhibant en bout de branche l'humeur charnelle d'un fruit.
Coin buriné, rembruni, jaunissant vers la fin.
Amandes que le vent dégomme.
Olives légèrement flétries et vert pâle.
Figues petites et vertes à demi dissimulées.
Kaki tirant sur l'orange.
Faisant ployer sous leur nombre les branches des grands plaqueminiers.
Poires délaissées roulant à terre de dépit.
La plupart se gâteront, putréfieront sur place, proie des oiseaux, rongeurs et autres insectes, sans même qu'on ait pu se faire une idée de leur chair ou goûter leur suc inimitable.
Interruption ou poème.
Le barbe du coin.
Le barbe du coin.
Verdâtre. De la grosseur d'un brugnon, mais d'un brugnon qu'on aurait bugné, rudoyé. Le coin se présente compact et dur au toucher, refermé sur lui-même, immangeable si ce n'est cuit en compote, gelée ou pâte. Buté, en butte au monde extérieur, aux attaques du monde extérieur, ce fruit renfrogné, difforme, au goût âpre, n'est que plis controuvés, balafres et plaies.
D'aspect bosselé, durail, il semble plus qu'un autre dur de la caboche, et pourtant cabossé, chair pétrifiée en amas centripètes autour de la tige, du bouton, acculé dans le coin.
Serrant le poing, gants de boxe nains au cuir racorni.
Recroquevillé en boule et colère.
Pendant la gueule!
Le coin.
Le coin.
Ça vous embouche.
Le coin.
Le coin.
Ça cogne et canarde. Cogne et canarde.
Le coin, coin.
Coin, coin.
Coin, coin.
Le coin est vert, vire jaune ensuite, devient en mûrissant plus jaune, volumineux et volontaire, mais toujours aussi dur, rébarbatif, peu volubile et causant qu'au début. Nature farouche et bagarreuse, en témoignent ses raies et bosses nombreuses, éraflures, stigmates, échymoses, qui constellent sa rondeur contrariée, rude, telle une pomme mal formée et mal fagotée, petite et sauvageonne, ne participant de rien, refusant de s'en laisser compter, ne mangeant pas de ce coin-là. Il faut, pour l'amadouer de sa chair, prendre soin, lentement le cuire et le malaxer. Bouille boudeuse, pleine, faisant masse et poids, poids et consistance, ne flétrissant ni ne se ridant comme d'autres à la moindre occasion, préférant périr sur place, sécher de la sorte.
V'lant
dans le bégueul!
Le coin!
Ça vous emmerde!
Le coin. Coin!
Ça traînasse, renacle et cognasse! Le coin, coin! Coin.
Fruit de mœurs ni d'abord facile, polissé, ne communiquant pas sur l'envie, le plaisir qu'on pourrait en tirer. Plutôt mutin, dédaigneux, l'air rancogné dans sa matière, la tête dure, l'esprit concentré, pesant dans la main, ne donnant prise à la séduction ni à la flatterie.
Ni suggestion, ni suggestion.
Oui, ni suggestion, ni suggestion.
Fruit sobre, brutal, faciès de rustre primaire de primeur, d'une densité exemplaire à l'image de l'arbuste piquant et vivace dont il provient, cognacier tenace et résistant, se débrouillant seul, ne sollicitant l'attention d'aucun, robuste, hirsute, ne lâchant rien, pas même ses fruits, ne se laissant pas approcher comme cela, ni compromettre, ni courtiser, ni faire risette. Bref, n'étant pas là pour paraître et encore moins pour régaler bêtement ceux qui ne savent le mériter.
Pendant la gueule.
Le coin.
Le coin.
Ça vous embouche.
Le coin.
C'est trogne de truand, tronche en compote et coup de poing.
Le coin.
Oh, c'est cogne et klaxonne.
Coin, 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 coin.
Cogne et klaxonne.
Coin,
coin, coin.
Coin. Voilà tout. La peluche qui l'enveloppe disparaît peu à peu, laissant la peau.
Verte ou jaune, selon le degré de maturation.
Lisse et nue, seulement habillée, abîmée de nions, clous et blessures.
Ce duvet blanc, seule douceur consentie, bientôt s'évanouira, découvrant le visage teigneux et réfractaire du fruit, sa subversion naturelle, son refus du poétique.
Fin du poème. Reprise du texte.
De temps à autre, un promeneur plus intrépide ou averti s'empare,
à juste raison,
d'une de ces merveilles pour la croquer sur place ou l'emporter chez lui. Vieux réflexe consistant à porter à sa bouche et manger ce que la campagne vous offre,
à portée de main et de dents.
Survivance d'une série de gestes, presque inconscients, renvoyant à une économie
rurale ou familiale,
révolue.
Présence presque incongrue de tous ces fruits, qu'on ne cueille ni ne ramasse plus, les laissant pourrir sur l'arbre sans un geste et sans respect pour lui.
Ce qu'il représente et signifie.
On voit ainsi, année après année, noircir ces fruits sacrifiés,
momifiés autour de leur noyau,
ces fruits scarifiés, contrariant dès lors le cycle en cours.
La sève est le sens du fruitier.
Les sirènes du bel canto ou la tisane des quatre fleurs.
J'allais oublier, celui qui ne nomme pas est sourd.
Ainsi, l'irruption du coquelicot. Saura-t-on s'en mentir ou dévier de notre propos,
sans déchoir ni céder aux sirènes du bel canto.
Le canto en question n'étant pas ici un quelconque joueur de football bravache et fort en gueule,
ni un genre de sérénade pour balcon,
mais la pesante prescription d'une partition composée bien avant nous, puis tombée dans le domaine public, qu'on récite sans peine et sans même s'en rendre compte, tel un poème jadis appris par cœur dont on ne parviendrait plus à se défaire.
Saura-t-on s'en mentir ou dévier de notre propos, sans déchoir ni céder aux sirènes du bel canto, exposer l'émergence ou l'éclosion soudaine, cutanée, au bas de l'enclos,
comme au bas d'un dos,
de touffes disparates, de parterres de coquelicots, émaillant talus et terrains,
la courbe des reins, le ventre, le bas du dos,
d'éclairs briques, de vifs rouges,
lubriques,
Stanley,
qui rend parfois sur l'orangé ou le fluo.
Plus récent.
Sorte d'effervescente rougeur, progressant par dissémination, petites auréoles, contamination, bouquets ronds, îlots ou atolls, dans l'herbe clairsemée du fossé ou celle plus dense et fournie du champ adventice. Et partout ailleurs, dans la recrudescence vigoureuse
et vertement affichée
du printemps. Fleurs qu'on put croire sibyllines et communes.
La même année, j'en vis de semblables, à l'autre bout du pays et à 2 mois d'intervalle, dans cet autre Finistère aux antipodes de l'Anerte qui borne Martigues, au sud.
Si ce n'était leur ton, leur texture et leur vivacité, ma foi, assez exceptionnelles. Fleurs, toutes à la même hauteur, se signalant pareillement entre les tiges.
Brins, folioles, boutons, etc., etc.
Des autres plantes, par leur teinte sans équivalent, tout juste vives.
Ferventes.
Inimitables. Dansant dans le vent doux.
Le ventre doux de la brise.
Oscillant au bout de leurs tiges.
Mollement, par instant.
Par vagues intermittentes. Rouge balai de fleurs vivaces se balançant
doucement
par instants
et vagues intermittences.
Coquelicot, coqueluche des poètes.
Et des nunuches.
D'où qu'on le prie avec des pincettes et non sans quelque réticence.
Et d'une vieille chanson sentimentale et rebattue.
La la la,
les deux font la paire, une paire d'ailleurs plutôt pléonastique. La la la,
dont le refrain se rappelle de temps à autre à nos oreilles par la voix légèrement chevrotante et nasillarde de Mouloudji.
Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot.
Coquelicot fleurissant par plaques d'un seul coup, trouant l'opulente verdure de leur tutu soyeux et inversé.
Oh!
L'image, à peine osée, en entraîne illico une autre, celle d'une danseuse de rouge vêtue qui, exécutant une roulade, une cabriole ou l'arbre droit, se retrouverait une fraction de seconde cul par-dessus tête, moment infime mais splendide d'équilibre gracieux et de légèreté où son boubou voltant autour d'elle laisserait entrevoir l'étoffe intime moulant son entrecuisse. Coquelicot, comme bascule froufroutante du printemps, corolle de pétales, debout bercée par le frisoli rafraîchissant de l'air, égayant le tapis verdoyant de la campagne.
Au contour rendu plus flou par le fouillis, l'ardeur drue, l'espèce d'exubérance joyeuse qui s'empare des choses, et la repousse généreuse des herbes hautes dans la deuxième partie du parc.
Coquelicot.
Une femme, sac en main, remonte l'allée. Sa robe se détache sur celle du pré.
Corolle fragile, 4 pétales croisés,
2 à 2,
accrochés à la base du pistil,
recelant les étamines dardées en étoiles autour du bouton.
La tige vert clair, fine, hérissée de piquants blancs ou blonds,
si fin qu'il plie sous les doigts sans piquer nullement.
Coquelicot,
en gros plan,
sonnant comme calicot,
toile de coton,
ou comme cocorico, portait
le nom du coq dans différents patois.
Patois.
Patois, mais le coq.
Qu'il a désigné alors comme analogie à la crête.
Rouge comme un coq.
Qui coiffe la fleur.
Rouge comme un coquelicot.
La chose, en tout cas pour délicate qu'elle soit, est faite pour prendre le vent.
Se gonfler d'aise et d'air.
S'arrondir et flotter.
Oh, féerique sphère.
Et gîter sur sa tige.
Libre, ouverte, comme un ballon sans tête.
Comme un ballon sans tête. Ta 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 ta.
Quatre châles couvrant des épaules dénudées, quatre foulards de soie que ballotte la houle.
Quatre voilettes ou volants minutieusement intriqués forment et ferment la corolle, la collerette.
Le toupet, la houppe rouge sang. Fleur simple, quand on y songe, simple et belle, si éphémère, si saine, si sensuelle, en raison de sa couleur, son être, son sexe.
Mais le coquelicot est masculin. Crête de coq, nature gesticulante, prestance, arrogance, caractère de bruyère.
Lèvres graciles, à peine peintes, frêle esquisse d'un impudique baiser, robe courte et flottante, rouge de honte ou de convoitise, se dégradant sitôt cueillie.
Sitôt que le désir vous pousse à la cueillir.
Comme métaphore de l'amour.
Masculin, itou. Exception faite du pluriel.
Du désir.
Fatalité à laquelle nous ne saurions souscrire.
Ne tenant pas.
N'y tenant plus.
Même dans un verre. Froissé, sans ressort et comme débandé.
Délaissé, lassé, périclitant si vite qu'elle se noie dans un verre.
Si je l'y précipite.
Flétri avant de faner, recroquevillé bientôt, sans une plainte, un mot. Fleur simple,
dont la corolle n'a qu'un seul rang de pétales.
Et, puisque j'y songe, simple fleur au relent de pavot, pavois, camelot.
Ô calicot, ô blanc-bec, dénigré, hébété sous les colibés de vos maîtres.
Je mords dans le fruité de la langue, le flûté, le fluant de la phrase et la neuve cliquot.
La veuve clito.
L'articulé du réticule, sa fluidité fruitée de...
Big.
Mangue.
La poésie, ce ridicule.
Je croque le coquelicot rouge charnu, exhibe sa culotte, épingle son flottant, son tégument d'époque. Je le sais pourpre, fragile en tout point, d'une sensibilité décorchée.
D'une finesse excessive.
Pétales délibérément dressés, finement membraneux.
Ou membré.
Un coq, vous dis-je.
Donnant l'apparence...
De la chair.
Je le sais...
Peau de velours lisse au toucher.
Et cependant, juteux.
Pulpeux.
Sans en avoir le moins du monde la consistance. Mentant sur la marchandise.
Oui, comme un camelot, un arracheur de thon.
Je le vois dans la prairie, brillant de mille feux.
Ah,
ah, ah,
ah.
Caracolant, billant tête en casaque carmin, rehaussé ou comme revenu d'entre les herbes qui t'enverdissent devant son effronterie, éclipsant durant sa floraison toutes les autres fleurs du champ, captivant l'œil comme la nuit la luciole, si frêle, charnel, léger qu'il semble danser dans l'air comme plume, duvet, édredon, calot de tissu, tube, turban tiradiant depuis la base, le feu au cul, en un réjouissant tutu.
Mais, rappelons-le, puisque c'est son lot,
or, nous n'en tirons ni morale,
ni plaisir,
n'étant pas de ces puritains aux dents blanches et aux mains occupées ailleurs.
Et se fripant vite, sitôt coupé ou cueilli, déclinant des carachés à son élément, à sa gloire innocente, bientôt dégonflé, flappi, pauvre chose gisant sur ma table.
Celle rustaude,
plantée au milieu du champ,
à laquelle manque une planche,
que l'air agite encore de soubresauts grotesques, comme un papillon cloué au sol battant de l'aile, sans force ni conviction, ayant épuisé son crédit.
Terreur de l'horloge biologique.
Où ?
Tableau moins mélodramatique.
Donc moins drôlatique.
Déjà fané.
Fini.
Se dérobant ainsi à l'injure.
Au scandale de sa prise.
N'étant pas de ceux qu'on soumet, dont impunément...
On abuse.
Ne laissant à son prédateur...
Celui qui, pour son profit, le confisque.
Que le souvenir de sa beauté affriolante, dès lors, désobligé, piquant de la tête,
collerette ramollie, pétale en papier bouilli,
et s'affaissant, définitivement ridé, chiffonné, avachi, vous daignant le droit de l'admirer autrement qu'en pleine terre,
pleine lumière,
turgescent et radieux, dans son éloquence crue et coutumière, sa sobre et rutilante chasteté de libertin défroqué au sexe équivoque,
le masculin du nom, le féminin du ton.
Coquelicot.
Oh, incarnation.
Sion du printemps.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est aussi un peu comme quand on surprend les premiers pépiments avant l'aube, c'est-à-dire dans une sorte d'ombre d'oiseaux qu'on ne voit pas, à la fois distincts et reliés.
L'impression m'est venue ce matin, au débotté, franchissant une énième fois le portail et attaquant le grand rectangle de biais, dans l'air vif, rincé par le mistral, quelles que soient les altérations, les nuances et dégrisements intervenus en 6 ans de chantier, la campagne est constante dans le temps. Elle offre une stabilité certaine en ce qu'elle est fidèle à elle-même, situation, matière, motif. Je pense ici à Cézanne et à sa Sainte Victoire. À Cézanne, telle qu'en parle Hubert Lucot, sensible à la durée de l'expérience, au retour de l'intemporel motif, à la succession des croquis et peintures durant une période de plus de 20 ans.
Saute des dates, jeu des réminiscences, va et vient, et malgré tout,
flux de l'actuel, bougée du monde, vieillissement de l'artiste.
Pérennité du motif et de ce qui s'en dégage. Beauté brute et têtue. Sensation intacte. Engagement.
Artistique.
Rage.
De l'expression.
Et j'en passe. Vous savez ça autant que moi. Le réel, mot à la mode, ne se réduit pas, ne se déduit pas. Pas plus qu'il ne se décide. Il est et dans le même temps n'est pas. Le temps d'ailleurs ne le résout pas. De ce point de vue, je pourrais venir 10 ans encore, 10 ans de plus. Je n'avancerai pas davantage.
Il y a une force du lieu, une constance, une inertie des choses, des traits communs, quand bien même son traitement différerait. Bloc clair de la Bastide au volet clos,
pépiment des oiseaux dans le périmètre interdit,
sensation de lumière et de ciel,
sensation d'espace,
d'ouverture aussi, d'ouverdure, je l'ai dit,
emprise avec l'immense étang,
le plateau aixois,
le massif de la Nerthe,
et bien sûr l'aileron rugueux et dorsal de la Sainte Victoire.
La Bastide m'attend dans le calme apparent, elle tout entière dans la lumière de 9 heures. Portail ouvert par le vent, grinçant sur ses gonds rouillés.
Pente douce.
Herbe rase.
Terre apparente.
Arbre nu et dispersé.
J'y suis tout de suite connecté.
Soleil éblouissant à l'angle droit du pré. Le grand rectangle vert brossé par l'air piquant.
L'orchestration du lieu me revient naturellement. La profondeur de champ.
La croix que forme ancien chemin et mur d'enceinte.
La perspective muette.
Les piafs.
L'horizon.
Je me tiens contre le mur, à l'abri du mistral, sur cette frontière maçonnée qui en consomme définitivement la séparation.
Corps de 3/4.
Gardant un œil sur la campagne.
Grand angle à perce sur la dextre.
J'examine longuement la Bastide et son enclos.
La tête à cet endroit dépassant du mur.
Jardin bruissant d'oiseaux.
Chassé-croisé nerveux.
Chamaillerie et matinale charivari.
en l'absence de tout autre être vivant, ce sont les maîtres incontestés du domaine.
Ils sont à leur affaire.
Aucune piste. Les volets demeurent obstinément fermés.
Aucun signe, hormis garé devant la carrosserie vieillissante d'une modeste Fiat Panda.
Ça n'avance pas. Un moment, je jurerais avoir vu le fantôme goguenard de Jean Toussaint Samat. Je ne suis sûr de rien.
Les mythes ont la peau dure et le polar continue de rassasier David et passionnés lecteurs.
Si j'en crois un auteur de chez Minuit, il n'y a plus que ça à faire. Les conventions depuis longtemps établies.
Suspense, découpage de l'action, montage quasi cinématographique, ça marche à tous les coups.
Ficelle facile.
Jackpot assuré.
Éditeur complice et content.
Ah, tu aurais tort de t'entêter dans cette obscure poétique. Le monde n'est qu'intrigue. Vois comment Ocar s'en sort depuis qu'il a introduit la figure du privé. La littérature a tout à y gagner, crois-moi. Rien ne vaut l'efficacité d'un scénario solide et d'une écriture enlevée. Mais attention, faut savoir être précis dans l'enchaînement des scènes. La mécanique du coup de théâtre, ça c'est de l'art. Laisse tomber ces matérialistes notoires, ces subtiles références, ces grises éminences. Donne leur rang pour leur argent, c'est ça qu'ils veulent. Des pains plein la gueule et du jeu dans tous les coins. C'est ça, ouais, ce n'est que ça. Du sang.
Du sexe.
Et des histoires à raconter.
L'étang court de gauche à droite, nappe trémulante et empressée, vaste tapis roulant, chevreau de frise ductile poussé par un mistral rasant. Mouvement d'ensemble par moments écumant, perpendiculaire à l'axe de la bastide. Vagues basses, tassées et rapides, effectuant en pleine vitesse la latérale traversée, d'un bord à l'autre, frisant blanc, phrasé gris-bleu, prose aplatie, pour aller s'emplafonner sur le brise-lames de l'Amed, lequel défend toujours le canal désaffecté qui reliait naguère le Rhône à Marseille et qu'on parle depuis 30 ans de rouvrir pour établir un peu la salinité de l'étang et sauver ce qui peut l'être. Les lignes des reliefs distants se dessinent et s'échelonnent, les unes derrière les autres,
à peine distinctes dans le bleuté brumeux du lointain intérieur, l'arrière-pays auquel la petite mer sert d'appui. La Sainte Victoire est invisible, masquée par la trop forte luminosité,
où les voiles successifs des brumes de chaleur, les platanes caduques font une huée puissante et raisonnable au pied de la campagne, repoussant l'ordonnancement de la frange habitée au-delà de l'avenue Fleming.
Chaque fois, la nouveauté est posée comme un préalable nécessaire à la possibilité de l'écriture, à la condition de sa poursuite. Ne cherchez pas plus loin la définition de la poésie. Sentir et voir, comme pour la première fois ce qui s'offre,
espace,
lumière,
paysage flagrant, fraîcheur vivifiante de février sur les joues et dans le cou, qui m'accompagne longtemps,
longtemps,
même après que je sois rentré. Vous venez d'entendre, après la campagne se poursuit. Feuilleton de lecture publique avec, par ordre alphabétique, Laure Ballester,
Olivier Domergue,
Christophe Roch,
des textes sont tirés de Une campagne, un livre d'Olivier Domergue paru aux éditions Le Bleu du Ciel en 2007. Prochain épisode, samedi 1er décembre à 18h30, à la Maison des Jeunes et de la Culture de Martigues. Une création d'autres et pareils et de la Maison des Jeunes et de la Culture de Martigues, http://autresetpareils.free.fr.